Il est 14h11, vous êtes toujours sur News FM, la suite de l'émission spéciale consacrée à la troisième édition de la Biennale des villes en transition. À la présentation, Simon Marseille.
Bonjour à tous.
Et moi-même, Walid Memdoui. En direct de la chaufferie, nous avons le plaisir d'accueillir trois élus de la ville de Grenoble, à savoir Annabelle Breton, Maud Tavel et Maud Wadelec. Alors commençons sans plus attendre. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour, nous donner votre poste, vos principales missions ?
Je démarre.
Allez-y.
Donc Annabelle Breton, adjointe au maire à l'éducation populaire, la jeunesse, la vie associative et la démocratie participative. Voilà, depuis ce début de mandat, depuis pas encore un an, mais depuis 10 mois.
Donc Maud Wadelec, et donc du coup je suis élue, nouvellement élue à la ville de Grenoble et sur déléguée au réseau des villes en transition. Donc voilà, les transitions c'est hyper large, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Et du coup également en charge de la Biennale des villes en transition.
Maud Tavel, bonjour à toutes et tous. Je suis adjointe en charge des questions de tranquillité et du temps de la ville. Et j'ai aussi l'immense honneur de porter la capitale verte européenne pour l'année 2022, que j'ai eu l'occasion, sous le précédent mandat où j'étais déjà élue, et donc d'être aux côtés du maire pour préparer à l'époque le dossier de candidature qui nous a amené à obtenir ce titre à l'automne dernier.
En guise de première question, donc, qui sera posée pour Annabelle Breton et Maud Wadelec, vous êtes donc de nouvelles élues. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers mois à la ville de Grenoble et quel front avez-vous mené dès le départ ?
Le premier front, c'est celui de la Covid. Vraiment, ça bouleverse quand même, j'imagine, le début de mandat. Donc, je ne peux pas comparer puisque forcément, je n'étais pas là avant. Mais il a fallu quand même... déjà, on a été élus plus tard que prévu. Et ensuite, il y avait l'été et puis la Covid et la situation sanitaire, sociale et économique. Donc ça a quand même été nos priorités de début de mandat. Et donc c'est difficile parce que je pense que normalement les débuts de mandat se passent différemment. On a notre projet, on a notre énergie pour mettre en place des nouveaux projets. Et là, c'est vrai qu'il a fallu quand même rectifier, se préoccuper tout de suite du quotidien des Grenoblois. Et donc on fait les deux en parallèle. Donc c'est un apprentissage. Parce qu'on découvre le monde de l'administration publique, en tout cas pour moi, du service public. Donc c'est la première chose. Et puis en même temps, il faut qu'on gère le quotidien de la situation. Mmh. Et on impulse quand même des projets, puisqu'on n'abandonne pas. Et donc on fait les choses en parallèle. Donc je dirais plutôt intense.
Maud Tavel, votre premier combat ?
C'est ça va être tricky, hein, ça va être parce qu'en fait on s'appelle toutes les deux Maud, mais Wadelec et Maud de Tavel. Donc oui, pour moi c'est mon premier mandat également, et effectivement je rebondis sur ce qui vient d'être dit. C'était un début de mandat qui était assez challenging. Voilà, donc nécessitant de bonnes capacités d'adaptation et une bonne résistance au stress. Voilà, mais bon, par rapport à ce contexte sanitaire qui nous touche tous, hein, tous et toutes, et voilà, et qui nécessite voilà, de faire avec et de continuer quand même effectivement à porter nos projets et à s'adapter. Ben là, la Biennale des villes en transition, c'est totalement ça, hein, puisqu'on a 90% de la programmation qui est en numérique, avec des visioconférences et des débats à travers le monde, hein, avec des personnes qui sont en Chine ou à Ouagadougou en Afrique, mais via les visioconférences, alors qu'auparavant, on avait des représentants qui venaient nous rendre visite. Et voilà, donc on est dans une adaptation, effectivement, à ce contexte sanitaire. Et essayer, effectivement, dans tout cela, de garder du lien social, de garder du lien humain, parce que in fine, c'est le plus important et on est là pour ça aussi.
D'accord. Maud Tavel, cette fois, votre premier dossier ?
Moi, j'en ai plusieurs. Moi, c'est mon deuxième mandat, donc c'est un peu différent de mes deux collègues. Mais en même temps, c'est un nouveau mandat. Voilà, je pense que c'est important de le dire, déjà parce que l'équipe a été en partie renouvelée, donc et puis parce que les élus qui avaient fait le mandat précédent ont changé aussi de délégation. Donc en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appréhendé. C'était une nouvelle équipe à construire avec toutes les difficultés que viennent de donner Annabelle et Maud. Et puis, pour moi, en tout cas, une délégation nouvelle, donc avec des choses à impulser. Voilà, avec, on s'adapte. Je pense que ça fait un an qu'on s'adapte, qu'on essaye d'accompagner à la fois les projets, l'ensemble des Grenobloises et des Grenoblois. On avance un petit peu à tâtons. C'est difficile, c'est compliqué pour tout le monde, mais il faut, en tout cas moi c'est ma nature, il faut quand même garder du positif dans tout cela. Donc voilà, donc mon premier grand chantier, parce que Capitale Verte, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui se poursuit, même si il y a un gros travail de préparation sur 2021 pour préparer l'année 2022. Un des grands chantiers, c'est les Assises de la Nuit à la ville de Grenoble, qu'on vient tout juste de délibérer en conseil municipal. Alors c'est compliqué, parce que quand on parle de la nuit, on pense bien évidemment à l'aspect festif. Alors là, aujourd'hui, on a la très grande majorité de tous les établissements qui sont fermés, mais la nuit, c'est pas que la fête. Donc c'est comment est-ce que l'on va travailler avec tous les acteurs qui travaillent la nuit pour essayer de construire quelque chose dans le temps qui permette de profiter de la ville, et puis aussi pour ceux qui ont envie de calme et de repos, de pouvoir aussi avoir cet accompagnement-là.
D'accord, merci. Alors sur cette thématique de la Biennale des villes en transition, justement, vous nous disiez tout à l'heure que ça a dû être, vous avez planché tout de suite dessus dès que vous avez été élu en 2020.
Oui, c'est ça. Effectivement, on a déjà été élu avec un petit peu de retard. Enfin, dans tous les cas, l'élection municipale, elle avait été décalée. Donc, et on avait cette échéance avec des enjeux et puis des attentes hein, aussi, puisqu'il y avait eu deux précédentes éditions qui avaient été un succès, donc en 2017 et en 2019, avec une participation des habitants qui était très importante et beaucoup d'acteurs aussi internationaux qui étaient importantes. Donc c'est vrai qu'on nous attendait quand même sur cette troisième édition. Et du coup, on a dû s'y mettre tout de suite avec notre fil rouge que vous connaissez maintenant, qui est le temps de l'essentiel et qui finalement est particulièrement adapté au contexte que l'on vit, au contexte sanitaire que l'on vit, et avec trois piliers du coup qui sont la transition sociale, la transition démocratique et la transition environnementale.
Oui, donc Maud Tavel, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la Capitale Verte. Donc pour le redire, Grenoble est la Capitale Verte européenne pour l'année 2022. J'aimerais vous poser la question, donc qu'est-ce que ça représente pour la ville ? Éric Piolle, le maire de Grenoble, avait annoncé que c'était plus qu'un simple label avec des critères. Donc qu'est-ce que ça représente pour vous ? Et quels efforts ont été mis en place en amont pour parvenir à ce résultat ?
C'est effectivement plus qu'un titre, c'est finalement quelque chose qui est peu connu à l'échelle européenne. On connaît tous la capitale européenne de la culture. Hein. Il y a pour les villes françaises Lille et Marseille qui l'ont été. On connaît mal effectivement ce titre-là, alors que c'est un titre qui est déjà ancien, puisque la démarche date de 2008 et la première ville à l'avoir obtenue, c'était Stockholm en 2010. C'est plus qu'un titre. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que finalement, c'est reconnaître le travail que le territoire a engagé depuis maintenant plusieurs décennies. Voilà. Donc je pense que c'est pas simplement l'équipe autour du maire qui avons décidé de porter notre candidature il y a maintenant 2 ans, mais c'est véritablement démontrer que ça fait plus d'une vingtaine d'années que le territoire grenoblois est dans une dynamique qui permet de pousser les démarches de transition. Et donc finalement, dans le dossier de candidature, l'objectif était de dire d'où nous partions, où est-ce que nous sommes aujourd'hui arrivés, et puis surtout, quels sont les objectifs que l'on a à horizon 2030 pour continuer finalement à accélérer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième sur lequel je voudrais insister, c'est que finalement, c'est pas uniquement porté par les institutions publiques. Et j'insiste vraiment là-dessus. Évidemment, les politiques publiques, elles font sens quand on parle de politique de transition, quand on parle de mobilité, quand on parle de la préservation des ressources, par exemple la ressource en eau, quand on parle des actions autour de la rénovation et de la réhabilitation de logements. Mais finalement, c'est l'action de tous les acteurs du territoire qui fait que cette transformation, elle est possible et qu'elle se fait chacun au quotidien par les actions que tout le monde peut mener. Donc on pense bien évidemment aux acteurs économiques, mais on pense à tout le tissu associatif et puis finalement à chacun des citoyennes et des citoyens qui au quotidien peuvent avoir une action, même petite, mais qui finalement arrive à transformer aussi le quotidien, les habitudes, pour demain avoir une démarche qui continue à accélérer ces transitions-là.
Alors justement, ce qui est un peu étrange, c'est que la Grenoble, c'est quand même une ville qui, de partout en France, on nous en parle comme voilà, la cuvette polluée, où il y a un air irrespirable. Comment est-ce qu'avec une réputation pareille, on peut être capitale verte ?
Et bien justement, parce que ce n'est pas qu'un titre et que ce n'est pas simplement une façon d'apposer un logo sur un territoire. Je vais prendre un exemple parlant. La ville de Grenoble est jumelée avec beaucoup de villes et en particulier avec une ville en Allemagne qui s'appelle Essen et qui a eu le titre de capitale verte européenne en 2017. Essen, alors quand on est français et grenoblois, on n'a peut-être pas obligatoirement l'histoire de cette ville, mais en tout cas, cette ville, c'était une ville très industrielle. Elle était dans le territoire de la Ruhr et elle avait des activités industrielles très polluantes. Et finalement, cette ville-là, de par son passé industriel et la trajectoire qu'elle a su se donner avec les acteurs du territoire, a permis finalement de reconnaître tous les efforts et toute la dynamique qu'elle a portée pendant des années, et c'est pour ça qu'elle a eu ce titre-là. C'est exactement la même chose sur Grenoble. Effectivement, en Grenoble, nous sommes une petite ville très dense. Il faut rappeler qu'on est la troisième ville la plus dense de France après Paris et Lyon. On est 160 000 habitants sur 18 km², donc on est beaucoup sur peu. On a un environnement effectivement naturel de montagne magnifique, la cuvette, vous en avez parlé. Mais en même temps, c'est finalement l'Union européenne qui a reconnu toute la politique qui avait été mise en place. Et j'insiste bien, c'est véritablement des politiques publiques qui sont déjà anciennes, mais qui ont permis depuis 25 ans de tracer une véritable transformation, un horizon. Et que cet horizon-là et cet effort aujourd'hui, il est reconnu. Et puis ensuite, au-delà de ce titre-là, c'est finalement démontrer que ce que nous avons fait, nous, ici, sur le territoire grenoblois, il peut être fait ailleurs, sur d'autres territoires. Et donc c'est aussi ce partage d'expérience à l'échelle de l'ensemble des villes européennes qui est intéressant et qui permet aussi de montrer que ce que nous avons fait se fait ailleurs. Et puis à nous aussi d'aller chercher des exemples à l'échelle nationale et européenne pour aussi prendre les bonnes idées, parce que je pense que c'est ensemble qu'il faut que nous arrivions à porter ces politiques de transition.
L'écologie, ça se fait pas tout seul dans son coin.
Ah non, l'écologie, ça se fait avec les acteurs publics et institutionnels, ça se fait avec le monde de l'économie, avec l'emploi, et puis ça se fait bien évidemment avec les habitants, citoyens et citoyennes, et avec la jeunesse, parce que je pense que la jeunesse est de plus en plus sensible à cela. Donc c'est aussi à travers elle que l'on doit continuer à pousser en tout cas les ambitions qui sont les nôtres aujourd'hui. Et puis je le redis bien aussi, où est-ce que l'on va d'ici quelques années ?
Donc pour rebondir sur ce que vous avez dit, donc ce n'est pas, vous l'avez annoncé, ce n'est pas qu'un effort de politique publique, c'est un effort commun. Tout le monde a donné un peu du sien à son échelle. Donc Maud Wadelec, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous qui êtes attaché aux questions de diversité, comment est-ce que la ville peut concilier la transition écologique et la vie dans les quartiers populaires ? Quel est votre point de vue là-dessus ?
Alors, je pense qu'on sera plusieurs élus à avoir un point de vue là-dessus, parce que voilà, dans tous les cas, on est tous concernés par ces sujets de diversité, par ces sujets de justice sociale, par l'inclusion de tous et toutes du centre-ville au quartier populaire. Comment est-ce qu'on peut faire le lien ? Alors, il y a quelques personnes qui seraient probablement plus expertes que moi pour en parler. Je pense à Fatima Ouassak, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est particulièrement sur ces questions de lien entre les quartiers populaires et la transition environnementale. Cette transition environnementale, comme le disait Maud Tavel, elle nous concerne vraiment tous quand il y a du réchauffement climatique, quand on est dans cette cuvette à Grenoble et voilà, quand il y a une pollution de l'air, qu'on soit routière ou qu'on soit à la Villeneuve, on le ressent. Donc effectivement, c'est un projet qui nous concerne collectivement. Au niveau de la ville de Grenoble et même au-delà de la ville de Grenoble, je dirais que c'est vraiment un projet qui nous concerne collectivement parce que le réchauffement climatique, par exemple, on le ressent qu'on soit en France ou à Sfax en Égypte. Donc effectivement, voilà la nécessité de tous s'y mettre. Voilà, on a une planète, on y est tous dessus, donc il faut tous s'y mettre pour agir et essayer de trouver des solutions ensemble.
Et aujourd'hui, alors comment est-ce qu'on va chercher un jeune qui habite par exemple le quartier du Lys Rouge, quartier de Mistral, qui n'est pas forcément concerné tout de suite par l'écologie? Comment est-ce qu'on fait pour le sensibiliser, pour lui présenter ça? Voilà, comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être apporter des commerces bio en bas. Je ne sais pas si ça suffit, moi, ça. Comment est-ce qu'on peut faire?
Quelque chose qui concerne finalement tous les habitants et les habitantes, c'est par exemple la question de l'alimentation. Et au-delà du commerce et de l'étiquette du bio, c'est finalement se dire qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous appréciez. Et puis c'est aussi arriver finalement à sensibiliser en se disant voilà ce que vous trouvez dans votre assiette, et ben comment ça a été transformé. Est-ce que vous avez envie de le transformer? Parce qu'on sait effectivement que plus les produits sont transformés par l'industrie agroalimentaire, et plus ça pose des questions. Donc il y a tout ça. Et puis derrière, quelle est la matière première finalement? Est-ce que l'on va chercher des produits qui sont produits dans les alentours, qui correspondent aux produits de saison? Donc voilà, la question de l'alimentation, elle est importante. Alors elle l'est. Et c'est une démarche qui s'accompagne dès le plus jeune âge, donc dans les structures d'accueil, hein, de la petite enfance à l'école, etc., mais qui concerne aussi les collégiens, les lycéens et les étudiants. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, ça fait un an que l'on parle aujourd'hui des difficultés que la jeunesse connaît. La question de l'alimentation, c'est un sujet. Et finalement, on a tous droit aujourd'hui à pouvoir disposer de fruits, de légumes, de poissons, de viande, de légumes secs, voilà, qui sont produits au plus près et que l'on arrive ensuite derrière à transformer. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième, qui pour moi est très important, c'est la question des métiers et des filières. Quand aujourd'hui on parle par exemple de la question de la construction, beaucoup de réhabilitation, de construction, du coût de la construction, du logement, etc. Derrière, il y a des questions de matériaux. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la question des matériaux biosourcés, c'est-à-dire l'utilisation du bois, de la paille, ce que l'on utilisait et ce que l'on peut trouver dans les campagnes en Isère, les maisons en pisé, c'était ça, en fait, finalement. Il y a 100 ou 150 ans, d'ailleurs, il suffit d'aller dans quelques villages pour en voir aujourd'hui des maisons qui sont maintenant réhabilitées, mais qui, pendant très longtemps, ont été abandonnées. Cette question-là, ça veut dire comment est-ce que finalement on produit, on valorise ces matériaux, mais comment est-ce que dans les filières aussi, on forme finalement les nouveaux entrepreneurs, les nouveaux artisans de demain à l'utilisation de ces matériaux-là. Mmh. Et ça, c'est pareil. C'est comment est-ce qu'on les accompagne dans des formations qui sont plus attentive aux matériaux utilisés et comment est-ce que demain, effectivement, on arrive à les mettre en place sur les chantiers de construction ou de réhabilitation. Voilà deux sujets qui intéressent, à mon sens, la jeunesse, l'alimentation et l'emploi.
Pour en revenir sur le sujet de l'alimentation, Annabelle Breton, vous qui êtes restauratrice également, j'aimerais revenir sur l'actualité récente. Une ancienne KFC a été autorisée par la ville ces derniers jours. Avant ces derniers jours, la ville était contre. Sa position était de dire que l'enseigne ne représentait pas suffisamment les valeurs prônées par la ville pour avoir le droit d'y être implantée. La ville l'a autorisé sous une condition particulière, produire et vendre de la lavande artificielle qui ne cause pas de douleur animale. La transition écologique passe aussi par ce genre de mesures.
Alors, vous êtes bien renseignée sur mon métier. Effectivement, je suis également restauratrice et notamment pâtissière dans mon restaurant. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans ce que vous nous avez signalé. C'est que alors, cette histoire de viande artificielle, en fait, c'était le 1er avril et c'était un article de Place Grenette qui était un poisson d'avril. Évidemment que la ville de Grenoble ne demande pas à ce que le KFC ait de la viande artificielle. Voilà, déjà parce que, ça nous concerne, enfin, en vrai, on n'a pas notre mot à dire, mais juste vous préciser que c'était un article de presse du 1er avril, donc qui a donc bien fait son effet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'une municipalité n'a pas le droit de regard sur les commerces qui s'installent dans leur rue. Donc effectivement, notre adjoint au commerce et notre conseillère déléguée à la condition animale ont écrit un courrier à KFC, en leur signalant que nous, on n'était pas forcément favorables à ce type de nourriture et surtout à l'élevage intensif qui va avec, avec KFC. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc KFC s'installera très certainement là où c'est prévu et on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Il n'y a pas d'autorisation de la ville à avoir pour s'installer en ville.
Alors, autre question, on parlait tout à l'heure de la jeunesse, justement, le rôle de la jeunesse dans la transition écologique. Vous le savez sans doute, mais le 19 mars dernier, près de 300 jeunes étaient dans la rue à Grenoble pour manifester, justement, contre le peu de mesures, finalement, cette loi climat qui est assez édulcorée par le gouvernement. Que pensez-vous, justement, de cette jeunesse qui manifeste dans la rue? Est-ce que vous la soutenez? Est-ce que vous les accompagnez sur ces rassemblements?
Oui, dans tous les cas, on est concerné dans tous les cas par la question de cette jeunesse, mais les sujets climatiques, comme on l'a dit, de toute façon, nous concernent vraiment tous. Mais effectivement, voilà, on a notamment des élus qui sont très jeunes dans l'équipe municipale. C'est vrai que c'est un sujet qui concerne notre avenir et qui nous concerne tous et qui doit être bien entendu et qui doit être bien pris en compte. On est dans une démarche. Il y a des initiatives démocratiques qui sont lancées, qui ont été lancées par le gouvernement, et après il convient de les honorer. Donc une fois qu'on pose la question, il faut être en capacité d'entendre la réponse.
Et justement, en termes d'initiatives démocratiques, il y a la métropole, ça ne vous concerne pas directement, mais quand même, qui a lancé cette convention citoyenne pour le climat spécialement grenobloise qui commencera dès cet été.
Métropolitaine.
Métropolitaine, pardon. Et donc 150 hommes et femmes seront tirés au sort et ils devront réfléchir à des mesures pour atteindre la neutralité carbone sur le territoire de la métropole d'ici 2050. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative?
La Convention citoyenne climat au niveau de l'État a été ce que les citoyens et citoyennes attendaient. Je pense que la mettre au niveau d'une métropole et d'un bassin de vie, parce que c'est ça qui est important, d'un bassin de travail, un bassin de vie, ça peut être pertinent. Et c'est pertinent que ce soit la métropole qui le porte, puisqu'elle a les compétences bien plus qu'une ville. Elle est plus concernée par même les transports et même les plans air climat, etc. Donc c'est plutôt des compétences métropolitaines. Donc c'est la bonne échelle pour avoir une convention citoyenne climat. Néanmoins, nous, à la ville, on développe également en parallèle alors là, on a lancé il y a 15 jours les ateliers citoyens de redirection écologique, des ateliers citoyens qui sont au plus près des habitants. Donc ça sera des tirés au sort, des habitants qui ont déjà été tirés au sort et qui ont commencé à travailler dans chaque secteur de la ville. Donc ils sont vraiment dans la proximité. Ils parlent de leur quartier, ils parlent de leur secteur, de leur commerce de proximité, et ils sont accompagnés par des chercheurs et des agents de développement locaux de la ville pour parler de l'environnement et de ce qu'on garde et de l'essentiel dans son quartier, la pollution lumineuse, les déchets, mais au plus proche des gens. Et donc c'est ça que une ville peut lancer, c'est plutôt mettre en place des ateliers de beaucoup plus en proximité pour répondre concrètement au quotidien des Grenobloises et Grenoblois.
Moi, je vais poursuivre sur votre question à la jeunesse actuelle. Moi, je suis admirative de la jeunesse actuelle. Moi, j'ai une mère qui a eu 18 ans en 1968. Hein, et j'ai une de mes fille qui va bientôt sur ses 18 ans. Et je trouve qu'il y a quelque chose de formidable aujourd'hui qui se crée et qui est porté par la jeunesse et qui est sur les questions environnementales, mais qui sont aussi beaucoup sur les questions sociétales. Je crois que la jeunesse d'aujourd'hui, elle s'engage beaucoup sur la question de l'égalité femmes-hommes. Elle dénonce beaucoup de choses. Elles le font avec beaucoup d'énergie et je trouve que c'est chouette. Et en tout cas, en tant qu'élu, on a cette responsabilité de les écouter, de les accompagner et d'être attentif. En tout cas, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagée politiquement.
Oui, quand on parle transition, on pense à la transition écologique environnementale, mais donc sur cette biennale, cette année, le choix a été fait d'élargir sur les transitions sociales et démocratiques. Donc ma question porte sur le fonctionnement en réseau. Wodwa Delek, est-ce que vous pouvez expliciter comment la ville peut justement fonctionner en réseau avec d'autres villes, et donc quel est le rôle justement de la biennale dans ce cadre?
D'accord. Donc la biennale... Alors déjà, je précise, parce que biennale, c'est un terme qui est pas, qu'on n'utilise pas tous les jours.
C'est vrai.
Et je pense que ça ne parle pas forcément déjà à tout le monde. Moi, il y a des personnes qui m'ont posé la question, mais à Biennale des villes en transition, vous allez faire quoi exactement? Donc j'en profite. La biennale, c'est quelques jours où... c'est un événement qui est initié par la ville de Grenoble, et c'est quelques jours où on se retrouve pour échanger sur des questions de transition au niveau des villes. Voilà, l'échelle, c'est la ville. Voilà, après, on échange avec les habitants, les acteurs locaux, donc économiques, les associations, les acteurs culturels, sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment un temps d'échange, voilà, de questionnement sur ces sujets de transition. Normalement, c'est en présentiel, et là, c'est en distanciel. Voilà, pour préciser déjà sur ce sur quoi on est. Après, sur l'importance de travailler en réseau. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Annabelle Réton tout à l'heure, c'est l'importance d'être en proximité. Pour moi, il y a plusieurs échelles, en fait. On est dans une société où les problématiques qu'on a actuellement, elles sont plus que locales. On est dans une société où nos problématiques, c'est l'environnement, c'est un modèle économique qui est particulièrement injuste et voilà, qui a beaucoup de conséquences. Voilà, c'est ça notre système dans lequel on est. Et dans ce système, il faut qu'on puisse mettre en place des solutions. Et donc, se jouent plusieurs échelles. Et la Biennale des villes en transition, je pense qu'elle intervient à ce niveau-là, à ce niveau du jeu d'échelle. À la fois être en réseau avec d'autres villes pour pouvoir échanger et se rendre compte des problématiques auxquelles on fait face, et essayer de trouver des solutions ensemble à ces défis et de les mettre en pratique. Et puis, justement, après, il y a la mise en pratique, donc au niveau local. Donc, on a identifié des solutions. On trouve qu'il y a telle chose qui se passe, par exemple, à Essen. On parlait tout à l'heure d'Essen en Allemagne, qui était capitale verte européenne en 2017 et qui était top. Comment est-ce qu'on peut le répliquer dans d'autres villes pour amplifier l'impact? Et je pense que, voilà, la biennale, c'est vraiment le sujet du réseau. C'est vraiment de faire le lien entre ces différentes échelles pour trouver et mettre en place des solutions à ces sujets qui sont systémiques, qui sont globaux.
Ben, en parlant de réseau, justement, les municipales de 2020, si elles ont bien montré quelque chose, c'est que y a cette vague verte qui vient gagner plusieurs grandes villes de France comme Bordeaux, Strasbourg, Lyon. Tout ça, finalement, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard, en fait? Est-ce que c'est un réveil des consciences qui arrive beaucoup trop tard chez les Français? Qu'est-ce qu'on peut encore faire?
Il n'est jamais trop tard.
C'est ça. Mieux vaut tard que jamais, certains diront. Non, mais... Oui, il est forcément trop tard. On aurait voulu que ça se passe il y a plusieurs années de cela, forcément. Et en même temps, mieux vaut que ce soit aujourd'hui que jamais, effectivement. Donc, c'est une vague verte, c'est une vague rouge, c'est une vague humaniste. C'est ce qu'on pourrait appeler l'arc humaniste.
Donc, on parlait du fonctionnement en réseau. Grenoble s'inspire d'autres villes, mais les autres villes s'inspirent aussi de Grenoble.
À ce qui paraît.
Ça revient un peu à la question juste d'avant. C'est qu'il y a des municipalités, effectivement, qui ont basculé. Et ça a été positif, et pour nous, beaucoup, de voir Marseille passer, par exemple, basculer à gauche... Et c'est ça, c'est que, en tout cas, nous, on les accompagne, on reçoit toutes leurs demandes pour qu'ils aillent plus vite. Justement, ils sont pas en retard, ils sont en retard, ils le savent, ils ont envie d'aller vite. Et c'est vrai que, comme nous, l'équipe municipale a déjà, l'équipe d'Éric Piolle a déjà 7 ans maintenant, on a fait des erreurs, on a appris, on a tiré des leçons. Et donc, c'est vrai qu'ils viennent beaucoup nous solliciter en nous demandant, nous, comme on va aller plus vite, on vous demande c'est quoi qui n'a pas marché. Comme ça, tout de suite, on ne le fait pas. Donc, et on le voit. Lyon va à une vitesse monstrueuse. Ils enlèvent la publicité, ils mettent des voies cyclables. Enfin, ils ont une capacité là d'application qui est ultra rapide. Et, Et voilà, ça va aller plus vite. Nous, notre mandat, on en parlait, on disait maintenant, nous, on va amplifier ce qui a été posé comme base pendant 6 ans. Maintenant, nous, on va accélérer. Mais il nous rattrape rapidement.
Un pour tous, tous pour un. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
On se retrouve bientôt pour l'interview de Éric Piolle, maire de Grenoble.